C'est bon. Sans quelques versets dans Romains chapitre 15, où Paul montre bien son ambition. Donc puisque c'est le thème de la journée, il dit par exemple que depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, donc c'est un peu les Balkans hein, actuellement, j'ai abondamment répandu l'évangile du Christ et je me suis fait honneur, ou presque l'ambition, d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été nommé. Puis un petit peu plus loin, il parle encore de son objectif. Maintenant, je n'ai plus de champ devant moi dans ces contrées et j'ai depuis plusieurs années le désir d'aller chez vous, donc à Rome, quand je me rendrai en Espagne. Et j'espère vous voir en passant et y être accompagné par vous après avoir satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Donc quand on dit se faire accompagner, il y avait certainement à la fois l'accompagnement dans le sens matériel, hein, donc le moyen d'aller plus loin, l'accompagnement spirituel, et probablement aussi recruter quelques personnes dans l'église de Rome pour l'accompagner. Donc c'était dangereux quand Paul passait, parce qu'on perdait les meilleurs éléments de l'église qui partaient avec lui. Mais bon, il y avait certainement tout cela. Donc voilà, c'est un peu son ambition, on le voit. Il est allé de Jérusalem jusqu'en Illyrie. Maintenant, il part de l'Italie et de l'Espagne. Je me souviens, mais c'était un détail qui n'a rien à voir avec le texte. La première fois que j'ai mis les pieds en Espagne, parce que j'ai dit, ah, c'est la première fois que je marche dans un pays mentionné dans la Bible. Enfin, je ferme la parenthèse. Ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est la fin de ce chapitre. Donc je vous le lis, parce que Paul demande la prière. Il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée, que les dons que je porte à Jérusalem soient bien accueillis par les saints, et qu'ainsi j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, pour jouir au milieu de vous de quelque repos. » Donc, il demande la prière pour quatre choses. Qu'il soit délivré des incrédules, que les dons soient accueillis, qu'il puisse aller à Rome et jouir du repos. Comment ça s'est passé? Les gens ont prié pour lui. Une chose est pratiquement certaine, donc il y avait un exaucement de la prière, que les dons soient accueillis. On n'a aucune trace dans la Bible que ces dons apportés depuis l'Achaïe, depuis la Grèce, jusqu'à Jérusalem, il n'y a aucune trace dans la Bible qui montre que les Juifs auraient refusé ce don, en quelque sorte. Donc on a toute raison de croire que les prières ont été efficaces et que ces dons ont été acceptés par les Juifs. En revanche, les trois autres choses, les choses se passent bien autrement. D'abord, qu'ils soient délivrés des incrédules de la Judée. Donc, si vous connaissez un petit peu l'histoire dans les Actes, qu'est-ce qui se passe? À un certain moment, les Juifs le voient avec un frère païen et ils l'accusent de l'avoir amené dans le temple. Il y a une émeute et puis c'est le responsable de la garnison de Jérusalem qui est obligé d'intervenir et de protéger Paul, qui peut faire quand même un petit discours, mais bon, il le protège dans le lieu de garnison. Mais après, il y a des Juifs qui font un complot. Ils jurent de ne rien manger et de rien boire jusqu'à ce que Paul soit tué. La nouvelle arrive aux oreilles donc du responsable militaire, par le neveu de Paul d'ailleurs, qui envoie Paul de nuit à Césarée, accompagné de 470 soldats pour le protéger. Mais non, pour protéger un seul homme, ils partent à 470 personnes. Ma question, qui ne demande pas de réponse, mais je la pose quand même, quand les Romains priaient pour la délivrance de Paul, est-ce qu'ils pensaient, ah oui, ça va se passer de la façon suivante, le responsable militaire romain à Jérusalem va protéger Paul et l'envoie avec 470 personnes pour qu'il soit délivré. C'est un peu comme au GBU, je ne sais pas quoi, un groupe dit, on va mettre un stand sur le campus, prier que l'on soit délivré des autorités, etc., que tout se passe bien. Et puis, un petit émeute, des athées arrivent, qui renversent la salle, il y a 470 CRS qui arrivent pour protéger les GBUciens, ils disent « Amen, le Seigneur a répondu à nos prières !» Donc, ça ne s'est pas bien passé comme il avait prévu. Je continue. « Pour que j'arrive chez vous avec joie. » Il est arrivé à Rome. Sans rien débourser, en fait, pour le billet. Parce que finalement, il avait fait appel à César. Il est parti avec un bateau, avec quelques petits problèmes en route. Je pense que s'il avait payé, on lui avait, comme la SNCF, remboursé la moitié de son billet parce qu'ils sont arrivés en retard avec le naufrage. Mais bon, ça s'est passé comme ça. Mais il est arrivé à Rome, avec joie. Et il dit, en plus, « Et que je puisse jouir au milieu de vous de quelques repos. » Mais forcément, parce qu'il était dans une maison, il était assigné à résidence dans cette maison, il ne pouvait pas bouger, mais enfin, il se reposait, hein. Il recevait du monde. Alors, ce que je conclus de cela, ce n'est pas certainement la seule conclusion sur l'ambition, mais je trouve que c'en est une. C'est que si on a une certaine ambition, et tant mieux, que ce soit une ambition missionnaire comme Paul, ou une ambition dans une entreprise, c'est très bien. Mais nous sommes entourés d'êtres humains qui ont leur liberté, qui font les choses d'une certaine façon, et aussi entourés du Seigneur qui est souverain. Et les choses ne se passent pas forcément comme on le pense. Mais ce n'est pas parce que les choses se passent autrement que l'on doit dire « j'ai aucune ambition ». Ça veut dire qu'on peut avoir des objectifs, on peut avoir une ambition, on n'est jamais sûr de pouvoir y arriver. Mais on peut demander la prière, on peut prier soi-même. Et je trouve que les deux aspects vont très bien ensemble. Paul avait vraiment envie d'apporter l'évangile en Italie, en Espagne. Ça ne s'est pas passé exactement comme il pensait, mais d'une façon ou d'une autre, cela est arrivé. Et je pense que pour nous, c'est la façon dont on peut, en quelque sorte, joindre la vie professionnelle d'un côté et la vie de relation avec Dieu, la vie spirituelle, la vie ecclésiastique de l'autre. C'est qu'on va pouvoir prier les uns pour les autres. Peut-être qu'on ne le fait pas assez d'ailleurs. Comme quelqu'un a dit, on prie pour les personnes qui s'occupent de l'école du dimanche pendant 30 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on prie pour le professeur d'école qui va s'occuper des enfants toute la semaine? Donc, ça, c'est aussi une petite remarque entre parenthèses. Hein. Donc, de prier les uns pour les autres dans nos métiers et de dire, Seigneur, tu es le Seigneur, tu es le souverain. Donc, voilà une petite réflexion à la fin. Ambition, oui. L'homme décide, mais celui qui a le dernier mot, c'est Dieu.